en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Pour lutter contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Le professeur John Shifford, membre du Centre national d'océanographie de l'Université de Southampton et de la Royal Society, s'est déplacé tout spécialement de Londres pour cette conférence sous la coupole à l'Institut de France le 13 décembre 2005. Avec un constat, si rien n'est fait, il est probable que les températures moyennes augmenteront de 1,4 à 5,8 degrés Celsius d'ici 2100. John Shifford parle de probabilité, puisque dans le passé, le climat a changé de façon inattendue et surprenante pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. En cela, pour John Shifford, il faut prendre des précautions. Tout d'abord en faisant descendre les émissions de CO2 en dessous de 50% du niveau global actuel. Ainsi, le protocole de Kyoto est en quelque sorte une toute petite étape dans la bonne direction. Autre résolution, utiliser la technique de la décarbonisation. Alors la décarbonisation, qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? C'est une technique qui permet de brûler de l'énergie fossile tout en séquestrant le CO2. Cette technologie représente une voie possible, mais doit être réalisée à grande échelle et développée au cours des prochaines décennies. Je vous propose d'écouter sans plus tarder l'intervention de John Shifford de l'Académie Royal Society.
Je vais vous parler un peu sur les perspectives du changement climatique, au premier d'ici à 2100, mais surtout au-delà, parce que c'est un problème de très long terme et les effets vont apparaître pendant des millénaires, pas dans des siècles qui arrivent. Alors, je vais parler un peu sur les projections que nous avons faites avec modélisation de complexité intermédiaire sur le millénaire prochain. Après ça, je voudrais bien parler un peu sur la variabilité naturelle et les changements rapides du climat que nous avons observés dans le passé et qui va presque certainement arriver dans le futur. Pour finir, je voudrais parler sur la gestion du changement du climat. Que pouvons-nous faire? Il faut accepter la taille énorme de ce problème, de duration très longue, mais je crois qu'il y a quelques réponses qui sont encore possibles et je voudrais bien vous expliquer un peu sur ce qui m'apparaît plus possible. Alors, ici, vous voyez l'histoire de la température de l'hémisphère nord depuis l'an 1000 après Jésus. Et vous voyez, j'espère bien, ici la période médiévale chaude avec les températures à peu près égales à ceux de maintenant. Après ça, cette période ici, la petite âge glaciaire. Et ensuite, depuis le 19e siècle, la période moderne avec un réchauffement assez important et assez rapide qui est presque certainement dû aux interventions humaines. Pour l'avenir, les projections de l'IPCC sont probablement bien connus à ce qui est ici aujourd'hui. Et cette projection attend un réchauffement de quelques degrés par 2100, avec une incertitude de quelques degrés encore, qui est due la moitié aux modélisations, l'incertitude des modélisations sur ce sujet et l'autre moitié sur l'incertitude sur le développement de consommation d'énergie fossile selon le développement économique. Les conséquences de ce réchauffement sont assez bien connus. Un des plus importants, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et ici, nous voyons que nous devons attendre une élévation d'à peu près la moitié d'un mètre par 2100. C'est déjà assez pour les villes côtières, mais ça va plus loin. La troisième évaluation de l'IPCC parle d'un réchauffement de quelques degrés par 2100, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les températures continueront à augmenter bien longtemps après ça. C'est pourquoi nous avons fait des projections à plus long terme avec ce modèle. Ici, nous voyons les projections avec quelques scénarios. Ces deux scénarios ici, intermédiaires, sont basés sur la combustion de toutes les ressources fossiles. Ici, nous avons deux autres scénarios où nous avons maîtrisé les émissions plus ou moins effectivement. Et ici, plus haut, nous avons deux autres scénarios où nous brûlons en plus la plupart des ressources d'hydrate de méthane sous-marin qui sont là en grande quantité. Maintenant, ce n'est pas possible d'utiliser ces ressources. Et maintenant, je vous montre l'élévation du niveau de la mer jusqu'à l'année 3000. Ici, nous avons en rouge le brûlement de toutes les ressources fossiles conventionnelles assez rapidement. Et en plus, c'est deux scénarios où nous brûlons encore les hydrates de méthane. Et ici, nous avons une élévation beaucoup plus grande, de quelques mètres du niveau de la mer, peut-être plus de 10 mètres. Ça dépend si ou non nous réussissons à foudre le Groenland. Il y a des autres conséquences qui m'intéressent beaucoup comme océanographe. Et un entre eux, c'est la diminution ou peut-être l'arrêt de la circulation thermohaline de l'Atlantique. La raison pour cet intérêt, je vais vous expliquer plus tard. Mais ici, vous voyez qu'avec ce scénario intermédiaire de brûler 4000 gigatonnes de carbone, nous avons une diminution par à peu près 60% de la circulation thermohaline. Moins si nous réussissons à maîtriser les émissions, plus si nous ne réussissons pas et nous brûlons ces hydrates de méthane en plus. Une autre chose qui devient de plus en plus d'intérêt et sur lequel le Royal Society vient de faire une étude dont j'étais parti, c'est sur l'acidification de l'océan. Le CO2, c'est un gaz un peu acide et nous avons déjà peut-être diminué le pH de la surface de l'océan par 0,1 point de pH. Et si nous brûlons toutes ces ressources que nous pouvons trouver, la diminution sera à peu près la moitié d'un point de pH ou plus, et encore plus si nous brûlons les hydrates de méthane. La moitié d'un point de pH, c'est bien assez pour les ressources vivantes, marines. Le plancton et les plantes et les animaux marines sont sensibles au pH. Et les organismes qui font de calcification aura des grands problèmes avec une diminution comme ça. Et voyez que la duration de tous ces effets, c'est très long, ça dure pendant le prochain millénaire et encore plus tard. Le CO2 atmosphérique ici sera peut-être élevé au plus de 1000 par million, et avec les scénarios plus agressifs, même quelques mille par million, et ça durera longtemps. Alors, j'ai parlé un peu du climat du futur, et il faut reconnaître que rester près du seuil inférieur de la fourchette de la IPCC, ça veut dire quelques degrés de réchauffement, sera déjà assez difficile. Il faudra que les émissions de CO2 globales devront diminuer de plus de 50% jusqu'au 80% pendant le millénaire prochain et finalement au zéro. Mais nous avons quelques millénaires pour réussir à ça. Mais diminuer les émissions de CO2 par 5%, c'est déjà un problème énorme. C'est un problème de très long terme, c'est un problème de grande taille, et c'est très difficile pour les politiques de penser et de prendre des actions sur les effets qui ne seront pas tout à fait visibles pour quelques siècles. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre du climat du passé? Le climat du passé a été plutôt stable dans l'ensemble, si on regarde sur beaucoup de millions d'années. Mais il y avait aussi des variations très importantes et quelquefois très rapides dont je vais vous parler un peu maintenant. Mais je crois que nous devons reconnaître que le changement de climat est possible d'être progressif et régulier. Il y aura probablement des surprises dans l'avenir, comme ce que nous avons vu dans le passé. Et ceux qui ignorent le passé sont condamnés à mal comprendre l'avenir. C'est une modification de le mot juste de George Santayana, mais je crois bien qu'il faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans le passé? Il faut à ce moment souligner que ces prochaines figures sont des figures paléoclimatiques, et tous les paléoclimatiques ont une convention qu'aujourd'hui, c'est à gauche ici, et le passé, c'est là, à droite. Alors, voilà les dernières 10 000 ans du Holocène, où les carottes de glace prises à Groenland nous avons donné des informations que le climat a été plutôt stable, mais avec des variations assez intéressantes. Ici, juste ici, vous voyez la période chaude médiévale et là, ensuite, la petite âge glaciaire. Ici, avec une température élevée par 1 degré, quelque chose comme ça, les Vikings ont réussi à coloniser Groenland. Et ici, avec une diminution de température de 1 ou 2 degrés maximum, ces colonies ont été terminées. Alors, ces variations ne sont pas très grands, mais ils sont toujours assez importants pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui est arrivé juste avant? C'est ça. C'est une période beaucoup moins stable. Ici, c'est le fin du dernier âge glaciaire. Un réchauffement assez rapide, mais après ça, diminution de température progressif, mais pas très régulier. Et ça a été suivi par cette période qui s'appelle le Trias récent, où les températures ont résumé ce niveau caractéristique des âges glaciaires. Mais au fin de cette période du Dryas récent, il y avait un réchauffement de à peu près 10 ou 20 degrés à Groenland qui a pris place pendant une décennie maximum, peut-être quelques années. C'était extraordinaire et nous croyons, ce n'est pas certain, mais nous croyons que ces changements très rapides et assez importants ont été basé sur les variations de la circulation thermohaline de l'océan Atlantique. C'est pourquoi nous croyons que cette circulation est une chose très importante pour la stabilité du climat en passé et peut-être dans l'avenir. Si nous prenons une échelle de temps plus longue, ici nous avons la dernière milliard des années. Ici, c'est presque tous de la dernière âge glaciaire et ces variations assez importantes, assez rapides et assez fréquentes ont été normales. C'est le climat normal de la planète pendant cette période. Et ici, où nous vivons maintenant, c'est une période qui n'est pas tellement normale. Nous avons une stabilité abnormale. Alors, c'est pourquoi je vous propose qu'il faut attendre quelques surprises. Ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle. Il y en a beaucoup de gens qui ont parlé de ça pendant ce décennie passé. Et même les gens du média ont pris un intérêt sur ce sujet et les conséquences d'un arrêt de la circulation de l'Atlantique ont été le sujet de quelques études, non seulement issue de Atlantic Monthly, mais aussi une programmation du BBC, s'appelle The Big Chill, il y a quelques années, et surtout le Pentagon Report sur Abrupt Climate Change qui a été produit il y a aussi quelques années maintenant. Mais pourquoi est-ce que cette circulation est tellement importante pour le climat? C'est parce que c'est associé avec un transport de chaleur entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord de à peu près un petawatt. Qu'est-ce que c'est un petawatt? C'est à peu près la quantité de chaleur générée par 1 million de centrales nucléaires. C'est assez. Et l'arrêt de ce transport de chaleur aura des conséquences assez importantes pour le climat. Ici, avec notre modèle, nous avons essayé d'estimer cet effet. Il y a beaucoup d'estimations avec des modèles différents, mais ils sont tous en accord qu'il y aura une diminution de à peu près 5 ou 10 degrés de température dans le secteur nord de l'Atlantique et un peu moins de ça sur l'Europe nord-ouest, c'est ici, avec un réchauffement moins marqué dans l'hémisphère sud, parce que c'est un système assez en balance. Les conséquences ne seront pas aussi graves que prévues dans ce film que vous avez peut-être vu. Il y a presque personne qui croit que ça va mener à une nouvelle ère glaciaire, mais ils seront assez importants pour l'humanité que nous devons bien faire des précautions pour y éviter si ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ce réchauffement de la planète? c'est un problème assez difficile parce que nous devons réduire les émissions globales par un facteur 50%, c'est un facteur de 2. Mais en même temps, nous devons attendre que la population mondiale va agrandir par un facteur de 2 à peu près. Et ces gens, surtout dans les pays en voie de développement, voudraient bien sûr augmenter leur consommation de l'énergie. S'ils font cela jusqu'au niveau de l'Union européenne seulement, pas même au niveau nord-américain, ça sera un autre facteur de 5 fois. Tout ensemble, ça fait un facteur de 20 de décarbonisation de la génération de l'énergie que nous devrons réussir à mise en œuvre pendant les décennies prochaines. Alors, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. L'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables pourraient peut-être nous donner un facteur de 4. Il y a un livre bien connu de Emery Lovins et ses co-auteurs qui s'appelle Factor 4, où il montre qu'il y a beaucoup de possibilités pour atteindre un facteur de 4, peut-être, avec ces sources et ces méthodes assez conventionnelles. Après ça, ça devient difficile parce qu'il nous manque encore un facteur de 5 que nous devons trouver. L'hydrogène, on parle beaucoup de l'hydrogène, mais ce n'est qu'un mode de stockage et de transport de l'énergie. Il nous faut toujours une source d'énergie primaire pour séparer l'hydrogène, et ça veut dire que c'est une source solaire ou nucléaire, par exemple. C'est un problème pas encore tout à fait résolu. Merci bien. Alors, il nous faudra peut-être mettre en place des autres solutions que j'appelle des solutions de macro-technologie. Ça veut dire la séquestration physique de CO2, ou peut-être même la modification de l'albédo, la réflectivité de la planète. Et je vais dire quelques mots sur ces possibilités maintenant. La capture et stockage de CO2, ce n'est pas trop difficile. C'est possible maintenant. Il y en a des installations qui le font à ce moment, actuellement. Et c'est aussi le sujet d'un rapport spécial de l'IPCC, très récent, où ces possibilités sont discutées assez complètement. Mais cette technologie s'est bien adaptée pour les installations fixes, mais ce n'est pas tout à fait bien adapté aux les sources diffuses ou mobiles, comme ceux du transport, par exemple. Et le transport, c'est vraiment un problème très grave et très difficile, surtout, bien sûr, le transport aérien. Mais à mon avis, je crois que dans 50 ans, tout le combustible fossile sera interdit sans la capture et stockage de CO2. Alors, si vous êtes... si vous êtes intéressé sur les développements technologiques pour l'industrie, les technologies pour ça pourra peut-être faire un développement intéressant. Plus loin de ça, ça sera peut-être possible de capturer le CO2 de l'air ambiant. La technologie pour ça existe, mais les coûts sont beaucoup trop hauts. Mais si ça deviendra possible et économique, ça mènera aux possibilités très intéressantes parce que ceci pourrait être fait n'importe où dans le monde sans une convention internationale Si la France voudrait le faire, la France pourrait le faire. Cela permettrait aussi de réduire les niveaux de CO2 dans l'atmosphère. Et la maîtrise des émissions ne permet pas cela. Mais la capture de CO2 de l'air ambiant permettra de réduire de nouveau les niveaux dans l'atmosphère. Ça pourrait être bien intéressant. Et, plus loin, si on avait aussi une source d'hydrogène propre, sans carbone, si nous pouvons en créer une, on pourrait produire des combustibles liquides à base de carbone, mais neutres en CO2. Et ça, c'est ça que nous devons vraiment pour le transport. Le transport aérien sans combustible à base de carbone, c'est presque impossible. Mais trouver un combustible comme ça, qui est neutre en CO2, c'est un problème intéressant. Alors, qu'est-ce que je vois comme la route en avant? Je crois que nous devons développer et mettre en œuvre assez rapidement et à grande échelle l'utilisation des combustibles propres pour le transport et la technologie de séquestration de CO2. On a en plus que l'utilisation de les sources d'énergie renouvelables et de l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, bien sûr. Ces développements faudra beaucoup de temps, quelques décennies peut-être. Alors, il faut commencer maintenant, pas le siècle prochain, maintenant. Et les industries de l'énergie pourraient et, à mon avis, devraient prendre les devants dans ces développements. Mais je crois bien qu'il faudrait aussi faire de la recherche sur les possibilités qui ne sont pas à ce moment pratiques. Et ça veut dire la production solaire et ou nucléaire de l'hydrogène, de l'extraction de CO2, de l'air ambiant et peut-être les techniques de modification de l'albédo de la planète. J'hésite un peu sur ce point parce que j'ai peur d'un développement comme ça. Mais ce n'est pas une raison de ne pas faire de la recherche sur ce sujet, bien que c'est possible qu'ils nous aurons besoin d'une solution d'urgence dans quelques décennies. Mais rien de ces développements va se dérouler sans des encouragements économiques. Et il faut créer des encouragements économiques pour faire bouger les choses et pour faire des encouragements pour ces développements. Il faut aussi, bien sûr, changer l'opinion publique et politique par l'éducation. Mais j'ai trouvé que ça ne suffit pas. Les jeunes gens sont presque toujours une bonne orientation vers les problèmes environnementaux. Mais le problème, c'est de maintenir cette orientation pendant qu'ils ont des familles eux-mêmes et les problèmes économiques qui se découlent de ça. Alors, je crois que l'éducation, c'est important, mais ça ne suffit pas et il faut alors trouver ces encouragements économiques. Qu'est-ce qu'ils seront? Le plus simple, c'est peut-être de penser sur un impôt sur le carbone et un impôt de à peu près 50 euros par tonne de carbone suffirait probablement pour rendre séduisantes quelques possibilités comme la séquestration, les carburants propres, biologiques et beaucoup des autres choses, surtout, bien sûr, les sources renouvelables comme les éoliennes et solaire. Est-ce que c'est grand-chose? Je crois que non. Parce que cela correspond à seulement environ 100 euros par personne par année pour l'Europe. Ou peut-être une augmentation de 3% sur le prix de carburant. Plus de ça, dans les États-Unis, bien sûr, mais ce n'est pas une catastrophe. Et on pourrait, en plus, neutraliser l'effet de ces impôts. Personne n'aime les impôts, ouais, c'est normal. Mais on peut neutraliser les effets par réduire un autre impôt, peut-être comme le TVA. C'est un impôt dégueulasse, mais... Alors, peut-être que nous pouvons remplacer le TVA avec un impôt sur le carbone assez important. Ça va changer les motivations économiques complètement. Alors, je crois que ces encouragements économiques sont bien possibles. Il ne faut pas avoir peur de ces encouragements. Et je suis très heureux d'avoir entendu qu'à Montréal, Bill Clinton a dit que les États-Unis pourraient faire beaucoup sur ces problèmes de maîtriser les émissions de CO2 sans dérouler son économie. C'est vrai. Mais cela alterait bien sûr les relations commerciales et internationales. Alors, l'idéal serait bien sûr que ce soit fait par un accord international. Mais peut-être l'Europe pourrait prendre les devants dans ce sujet et peut-être qu'elle pourrait le faire unilatéralement. Si vous vous intéressez de ces idées, je voudrais bien vous recommander ce nouveau livre de mon ami Wally Broca qui s'appelle Fossil Fuel CO2 and the Angry Climate Beast. Et Wally, c'est lui qui a inventé l'image du climat comme une bête féroce que nous sommes en train de provoquer avec un bâton. Et je crois bien que ce n'est pas sage et il faut y mettre un terme. Alors, pour le jour d'après, est-ce qu'il y a déjà trop tard à faire des choses effectives? Non. Quelques degrés de réchauffement sont maintenant inévitables, mais nous pouvons encore éviter 10 degrés ou plus de 10 degrés. Est-ce que les actions locales sont intéressantes parce que c'est un problème global? Je crois que oui, et vraiment, elles sont primordiales parce que nous ne pouvons jamais convaincre la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud si nous réformons d'abord. Et quelle est la meilleure solution? Ça, je crois, ce n'est pas une question intéressante parce qu'il n'existe pas une solution miracle sur ce problème. Il faut un mélange des solutions qui sont bien adaptées aux problèmes particuliers et pour le transport surtout. Alors, je vous recommande d'oublier le débat. Est-ce que le nucléaire vaut-il mieux que le vent? Ce n'est pas tout à fait intéressant. Il nous faut toutes les contributions possibles de toutes les sources que nous pouvons trouver. Et autant et aussi vite que nous pouvons les développer. Il y a toujours des incertitudes. Est-ce que les incertitudes, c'est une raison pour rien faire? Je crois que non. Au contraire, je crois que les incertitudes, c'est une raison pour prendre des actions précautionnaires. Alors, Albert Schweitzer a dit que l'homme a perdu la capacité de prévoir et d'anticiper. Il finira par détruire la Terre. Et il a dit cela presque 50 ans dans le passé. Mais je ne crois pas que nous avons perdu la capacité de prévoir et j'espère bien que nous n'avons pas perdu la capacité d'anticiper. Messieurs et Madame, merci pour votre attention.
C'était le professeur et océanographe anglais John Shepherd de l'Academy Royal Society. Il s'exprimait sur les solutions possibles pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre et ainsi limiter le réchauffement climatique de notre planète. Merci de nous avoir suivis pour cette séance. Au revoir et à bientôt.